6h03, lundi 24 février. Bonne journée. Bienvenue au 98.5 FM. Alors, ce matin, ciel nuageux, mais après le week-end quasi printanier qu'on a connu, le beau temps se poursuit. C'est du soleil qui est prévu aujourd'hui, avec un maximum autour de 8 degrés, moins 1 pour la nuit prochaine. Demain, mardi, du soleil, peut-être un peu plus de nuages, autour de 4 degrés. Et ça se garde pour le reste de la semaine, notamment mercredi et jeudi. Plus au nord, on aura de la neige. Plus au sud, donc région métropolitaine élargie, on prévoit de la neige intermittente ou encore de la pluie. Et même scénario qui est prévu pour jeudi, de la pluie ou de la neige, qui veut dire qu'entre, disons, la journée de mercredi et jeudi, c'est pas impossible qu'on se retrouve avec de la pluie verglaçante. Et puis finalement, vendredi, on parle de temps surtout nuageux et moins 5 degrés. Bon, parlons des barricades, parlons des Autochtones qui avaient reçu un ultimatum du gouvernement ontarien. On leur a demandé de débloquer les voies. Ultimatum qui prenait fin à 23h59. Il ne s'est rien passé. Les barricades sont maintenues. Le transport ferroviaire est bloqué. Là, je ne parle pas des trains de banlieue pour la région de Montréal, à l'exception de Candiac, là. Mais essentiellement, il n'y a rien qui se passe. Et là, on a vu l'attitude du gouvernement Trudeau. M. Trudeau qui a dit vendredi, en point de presse, que, et je cite, « Les blocages qui paralysent le transport ferroviaire devraient cesser immédiatement. On est rendu à lundi, il ne se passe rien. » Marc Garneau, le ministre des Transports, reconnaît que c'est un impact majeur sur l'économie, que les gens sont tannés, mais invite au dialogue. C'est toujours la même histoire. Et pour reprendre ce qui s'est passé vendredi, juste rappeler qu'à Saint-Lambert, on avait 8, 10, 12, 15 militants de la gauche qui ont récupéré la cause autochtone pour dire, ben là, on est contre le fameux gazoduc. Et la police ne les a pas délogés, ils sont partis, tout simplement. Alors, on n'était pas devant des militants Mohawk sur une terre ancestrale. Et si je reviens dans l'Ouest, juste rappeler une chose. Et malheureusement, mis à part quelques médias, je trouve qu'on ne met pas ça assez en évidence. Parce que là, quelles sont les revendications? Il faut que la GRC quitte. Ce qu'on voit comme image ce matin, c'est que la police de l'Ontario est assez près d'une des barricades. La GRC, en principe, devrait se retirer. L'offre a été faite la semaine dernière. Est-ce que c'est fait? Ça va se faire? C'est assez flou. Mais l'autre chose, c'est que vous avez d'autres leaders de la communauté Wet'suwet'en qui disent, nous, les chefs héréditaires, ils ne nous représentent pas. Alors, il y a eu cette mère de clan de plus de 80 ans qui est sortie vendredi, qui a dit, écoutez, on se fait tasser, on se fait usurper le pouvoir par quelques chefs héréditaires, ceux qu'on voit défiler, là, qui sont venus voir les Mohawks ici et qui retournent vers l'Ouest, en disant que ce sont des chefs qui n'ont pas le mandat, qui n'ont pas un appui populaire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de leaders autochtones qui sont d'accord avec ce projet de développement. Alors, ça, là, c'est un peu, disons, ça fait partie de la stratégie de propagande, là. On ne met pas ça en lumière. On nous présente les Autochtones là, comme étant un front uni parlant d'une même voix. Or, c'est faux. Et encore là, je ne dis pas qu'il faut utiliser la force. Ce que je dis, c'est toujours la même chose. Qui sont les interlocuteurs? Qui représentent-ils? Puis quelle sorte de deal on peut faire? C'est prenez ce projet qui a été annulé par Teck Resources, projet de sable bitumineux, qui est une méga usine à venir pour les 30 prochaines années, pratiquement, en tout cas les 25-30 prochaines années, de sable bitumineux. Hier, la compagnie a dit, finalement, on ne le fera pas. Pourquoi? Ben, la raison officielle, c'est qu'il faut avoir un débat, c'est très controversé. L'autre chose, est-ce que le projet est si rentable que ça compte tenu du prix du pétrole? Mais ils avaient quand même obtenu l'accord d'une série de communautés autochtones. Alors, tu sais, de faire toujours le lien pipeline, oléoduc, gazoduc égale violation des droits des Autochtones, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça, puis on le voit dans ce dossier-là. Alors, on verra aujourd'hui comment ça va évoluer, puis l'impact est réel. Il y a un auditeur qui m'a écrit, petite entreprise familiale d'importation, ils ont 4 cargaisons de coincées entre Montréal et Vancouver. Les biens en question ont été payés et ils ne veulent pas faire de mise à pied, mais ils se ramassent avec une pression financière quand même importante. Il y a un chargement de souliers qui devait arriver le 15 février. Ils l'ont pas reçu. Des chaussures également de 4 manufacturiers différents. Et eux distribuent partout au Canada. Mais là, tu te dis, OK, je peux-tu avoir le matériel? Faut que je vende ça. Faut que je redistribue ça à des magasins. Puis peut-être qu'ils vont annuler la commande. Je vais être prêt avec ça. J'ai déjà payé. Alors, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres où on se retrouve avec un impact réel de ces moyens de pression. 6h09, peut-être les points chauds de ce début de journée, monsieur. Très bien, parlons du virus, bien sûr. D'abord, le nombre de pays où au moins un cas de patients ou de voyageurs infectés ou de citoyens infectés a été détecté est en forte croissance. La Corée du Sud, les cas se sont multipliés. Également, il y a des cas en Iran qui sont tombés ce matin, des cas en Afghanistan. Et puis hier, on a appris qu'une passagère contaminée a fait une escale à Montréal. Elle arrivait d'Iran, transite par Montréal pour se rendre à Vancouver. Et ça a l'air qu'Air Canada ne l'a pas trop dit, même pas aux autorités de l'aéroport de Montréal. Et c'est clair que, quand vous regardez les dernières tendances, c'est inquiétant. Je prends l'Italie ce matin. Des mesures de précaution qu'on voit pas très souvent. Vous avez une dizaine de communes, 50 000 personnes qui sont touchées. Et même le gouvernement italien a dit que l'idée d'envoyer des militaires pour faire respecter cette quarantaine n'était pas écartée. Donc, les gens, à part la pharmacie, où les pharmacies sont ouvertes, là, les gens doivent demeurer chez eux. Le carnaval de Venise, on a décidé de stopper les activités. Jusqu'à maintenant, 200 personnes sont contaminées. 4 de ces patients sont décédés dans tout le nord du pays. Et là, vous pouvez penser au Piémont, vous pouvez penser à la Vénétie, Lombardie. Et ça pourrait également s'étendre. Il y a d'autres pays où on est obligé de prendre des mesures similaires. Le nombre de cas en Iran, là, on est rendu à 12 morts et le nombre de personnes contaminées est aussi, largement en hausse. Et même l'Organisation mondiale de la santé reconnaît que c'est extrêmement préoccupant parce que plus vous avez de pays, et on pense à l'Afrique aussi où des cas risquent de se manifester dans les prochains jours. Alors, Corée du Sud et Italie qui sont sur un pied d'alerte. Bon, dans les autres nouvelles, il y a l'histoire du professeur de l'Université McGill, professeur de droit, Daniel Weinstock, qui a reçu hier finalement les excuses du ministre Jean-François Robert. Je vais essayer de vous résumer là, le plus clairement possible la polémique, la controverse. Monsieur Weinstock, donc, est un prof à McGill. Et il a été écarté d'une conférence qu'il devait donner. On est en train de préparer, on le sait à Québec, une réforme du cours d'éthique et d'enseignement religieux. Et on avait retenu les services de M. Weinstock pour qu'il fasse une présentation en disant comment l'éthique, on peut la définir et comment on l'insère dans un cours. Richard Martineau, dans le Journal de Montréal, a écrit une chronique où il a laissé entendre que M. Weinstock avait parlé, conférence, là, à des médecins et avait parlé du phénomène de l'excision et parlait d'une pratique, d'une technique utilisée qui est une excision symbolique qui est prônée par des médecins américains notamment qui disent « c'est mieux ça que la véritable excision ». Alors, laissant sous-entendre que M. Weinstock était partisan de cette approche, le gouvernement a lu ça puis a décidé de virer M. Weinstock. Le problème, c'est que l'article était faux. M. Weinstock n'a pas dit « c'est mon idée ». Il a dit « ça fait partie de ce qui existe comme courant de pensée et je suis contre ». Bref, le rectificatif qui avait suivi le papier d'origine a échappé à M. Martineau, qui a reconnu l'erreur. Et la question, est-ce qu'on parle de quelque chose qui existe et avec laquelle on n'est pas d'accord? M. Weinstock dit que oui. Puis c'est normal d'exposer des points de vue, de dire voici autour de l'excision ce qui fait l'objet de débats. Quelles sont les options puis quelles sont les positions prises par différents groupes. Ça ne veut pas dire que si je vous présente telle théorie ou tel principe, je suis d'accord avec ça. Alors finalement, M. Weinstock a obtenu gain de cause puis a beaucoup écrit en fin de semaine sur Facebook. Alors, c'était un peu rapide d'ailleurs de la part du gouvernement. Ça, c'est une des caractéristiques de la CAQ, c'est-à-dire qu'ils agissent vite, ils se trompent puis ils s'excusent. Remarquez que c'est mieux de s'excuser que de s'entêter, mais il faut au moins le souligner. Maintenant, dans le Journal de Montréal ce matin, il y a une histoire. Un architecte et son pot de vin à Hydro-Québec. Alors, c'est un entrepreneur qui dit, enfin, il n'est pas seul, là, plusieurs entrepreneurs prétendent avoir versé plus de 30 000 $ en argent comptant depuis 17 ans à un architecte d'Hydro-Québec qui l'aide à faire des bonnes affaires auprès de Hydro. C'est Félix Séguin du bureau d'enquête du Journal de Montréal qui écrit ça ce matin. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont mis une caméra, ils ont organisé un rendez-vous avec l'architecte en question qui s'appelle Guy Huot. L'homme d'affaires qui s'implique dans ça, c'est André Dansereau, et qui veut démontrer que pendant des années, Huot a collecté. Alors là, vous avez la série de photos. Il est allé chercher 500$ à la banque, il a mis ça dans une enveloppe, puis il a offert ça à Huot. Et là, vous voyez les images. C'est assez comique, d'ailleurs. Il essaie de mettre l'enveloppe dans sa poche de chemise, puis ça ne rentre pas. Fait que finalement, il est obligé de la mettre ailleurs. Et ça remonte quand même à très loin. Le monsieur Huot en question a reconnu avoir rencontré M. Dansereau, mais ni avoir touché un pot de vin, sauf qu'on le voit très bien, mettre l'argent dans ses poches. C'est toujours assez étonnant de voir quelqu'un qui reçoit 500$. C'est 500$ pour mettre ta réputation en jeu, ta crédibilité, ton intégrité, puis ta job, parce que j'imagine que le boomerang va y revenir dans le front. Alors, la somme exigée par le fonctionnaire était de 5 000. Un des premiers pots de vin, là. Et c'est après une réunion avec les associés qu'il a décidé de payer. C'était pour faire homologuer un produit, une peinture résistante qu'on utilise dans les centrales hydroélectriques. Et Huot avait, paraît-il, le pouvoir d'aider dans ce cas-là. Alors, vous retrouvez ça ce matin dans le Journal de Montréal. Il y a un autre cas intéressant. Pierre-Yves en a parlé, je pense, il y a deux semaines. Vous avez les fameuses cafetières Nespresso qui vont être distribuées, tenez-vous bien, là, dans les écoles du Québec. C'est 4000 cafetières que la compagnie offre par le biais d'une fondation qui s'appelle « J'adore mon école ». Puis on dit aux profs, vous méritez un bon café, puis voici, on vous donne gratos cette machine à café qui coûte à peu près 250$. Alors, il y en a 4000. Là, vous avez des profs qui disent, « Oh, minute, là. On ne peut pas recevoir des cadeaux comme ça de l'entreprise privée. » Deuxièmement, tu sais, cadeau, c'est un grand mot, là, parce que pour que la machine fonctionne, ils vont devoir acheter les fameuses capsules. Imaginez 4000 machines au Québec multipliées par le nombre de profs dans une école qui prennent un café. Combien vous pensez qu'ils vont en vendre de capsules? Fait que c'est sûr que comme outil de pénétration, outil de marketing, c'est assez extraordinaire. Mais là, vous avez, par exemple, à la Commission scolaire de Montréal, qui a été informée de cette joyeuse proposition, les enseignants ont été avisés de ne pas se servir de la machine le temps que le comité d'analyse des commandites se penche sur les aspects éthiques de ce don. Alors, vous lirez les détails dans la presse ce matin. Dans de Gazette aussi, vous savez, on a installé des ascenseurs dans des stations de métro, notamment pour permettre à des personnes handicapées d'avoir accès aux transports en commun. Le problème, c'est que dans plusieurs stations de métro où il y a ascenseur, les gens qui ont un fauteuil roulant ne rentrent pas dans l'ascenseur. Ça ne peut pas. Ça a l'air que c'est vrai. Alors, il semble que ça a été mentionné lors d'une réunion le 5 février dernier. On note notamment qu'à la station Snowdon et Jean Talon, que la plateforme est trop basse pour permettre à des chaises roulantes d'avoir accès au train. À Lionel Groulx, Honoré Beaugrand, là, il paraît que c'est trop haut pour aller sur les trains Azur. Fait que là, on a installé des ascenseurs. Ils prennent l'ascenseur, ils arrivent, puis ils ne peuvent pas rentrer dans le métro. Dans un certain nombre de stations. Donc, c'est dans The Gazette que vous allez retrouver ça ce matin. Aux États-Unis, si vous suivez ça, les primaires, Bernie Sanders qui l'emporte, il a remporté une victoire éclatante dans le Nevada. Et là, vous avez celui qui se présente comme un socialiste, comme un homme de gauche qui dit « Moi, je vais battre Donald Trump ». De l'autre bord, vous avez le maire de New York, l'ancien maire de New York, Bloomberg, milliardaire, qui se tape de la pub tout azimut. Joe Biden, l'ancien vice-président, ça n'arrive pas à décoller. Alors, est-ce que les Américains, puis ce sera un des sujets de la commission ce matin, est-ce que les Américains sont prêts à élire quelqu'un de gauche, comme Bernie Sanders? Imaginez une course à la Maison-Blanche entre Donald Trump et Bernie Sanders. Là, on a des valeurs complètement opposées. Est-ce que les Américains vont embarquer là-dedans? C'est une maudite bonne question. On va faire la pause. Il est 6h20. Allons-y avec la métropolitaine.